I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On the Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Samuel, 35 ans, avait à cœur de raconter son histoire et de parler de son parcours peu commun. C'est un épisode où sont racontées les multiples vies de cet homme solaire et d'une grande douceur. Élevé dans la communauté juive orthodoxe, il embrasse par la suite un judaïsme ultra-orthodoxe. Samuel ira en Israël se former au Talmud pour revenir en France et provoquer une rupture totale, mais nécessaire, avec sa communauté. Samuel ne souhaite plus évoluer dans cette dernière, malgré les idées de sa religion qu'il affectionne et respecte profondément. Il croit en la liberté avant tout. Son premier baiser échangé à 23 ans, Samuel perd quelques années plus tard sa virginité avec une prostituée, puisque sa petite amie de l'époque, avec qui il passera 5 ans, est de confession juive et ne souhaite pas de rapport sexuel hors mariage. Puis Samuel, alors étudiant en psychologie, drague et plaît aux femmes. C'est une révélation. S'ensuit une relation tumultueuse de 5 ans avec sa dernière compagne. Cette femme, très bloquée sur la sexualité, lui rappelle quelque peu les tabous, les non-dits de sa jeunesse. Samuel aura beaucoup de mal à trouver son équilibre intime à ses côtés. Récemment, Samuel déconstruit le rapport pénétrant-pénétré, s'interroge sur la différence des plaisirs et des ressentis. Bref, pour ce 41e épisode, c'est une histoire dense que je vous propose. Pour finir cette année 2020 si compliquée, je suis ravie de vous offrir ce discours bienveillant, sincère, avec un homme comme Samuel qui se remet en question et vous fait profiter de son analyse clairvoyante. Il vous partage les leçons tirées de ses actes passés avec générosité et conclut avec une très belle pensée. Je vous précise que cet entretien a été enregistré pendant le confinement, en novembre. L'enregistrement de la voix de Samuel n'est pas optimal, mais le nécessaire a été fait pour que cela soit audible. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour ce nouvel épisode, c'est Samuel, 35 ans, qui est pas tout à fait en face de moi, à des kilomètres. Ça va, Samuel ?
Ouais, très bien. Un petit peu stressé, je dois te dire, mais sinon ça va.
C'est normal d'être un peu stressé au début, surtout que comme on n'est pas ensemble, on n'a pas pu passer ce petit temps, on va dire, où on s'apprivoise un peu, mais on a pas mal échangé en DM. Ça fait un petit bout de temps qu'on échange d'ailleurs.
Ouais.
Et je suis très contente en tout cas qu'on ait trouvé ce moment-là, surtout que ton histoire et en tout cas ce que tu vas raconter, je ne sais pas exactement en détail, mais est une des rares, je crois, paroles comme ça qu'il y a eu dans le podcast. Donc c'est top. Donc merci pour ça déjà.
Ben, je t'en prie. C'est important pour moi justement de le faire pour ça, pour qu'il y ait aussi une parole par rapport à mon histoire et que des personnes comme moi puissent se reconnaître un petit peu dans ce que je vais raconter. Tu vois.
Super. Samuel, on va commencer tout de suite par la première question que tu connais. Est-ce que tu peux nous dire, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité?
Ouais, bien sûr. Bah, du coup, à force d'écouter le podcast, j'y réfléchis, comme beaucoup d'autres avant moi. J'ai envie de dire qu'il y a deux souvenirs assez forts qui me reviennent. Le premier, c'est un peu, tu vois, à la freudienne, quoi, une scène primitive classique. Alors pour le coup, j'ai pas vu, mais j'entendais mes parents faire l'amour et j'étais. Je me rappelle tout petit, hein, je sais pas, genre 5-6 ans, être surpris en fait et même avoir peur pour ma mère, tu vois, le côté un peu.
Okay.
Voilà quoi, des cris d'extase qui pour un enfant sont peut-être interprétés comme la violence ou des choses graves, quoi.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est mon premier souvenir. Le deuxième qui m'a aussi beaucoup marqué. C'était vraiment tout début de l'adolescence, je devais avoir 12 ans. Ma sœur venait de se marier, on était partis à Paris parce que son mari était parisien. Et chez nous, dans notre communauté, un mariage, ça ne dure pas un seul jour, mais ça dure 7 jours. On fait la fête pendant 7 jours.
Donc c'est peut-être là qu'il est important de rappeler de quelle communauté tu parles.
Ouais, alors moi je suis de confession juive et je viens d'un milieu qui est orthodoxe, voire ultra-orthodoxe. Et du coup, dans notre communauté à nous, on fait un mariage, ça dure 7 jours. Et à Paris, moi, à la fin, je commençais à vraiment m'ennuyer. Et je suis resté ce soir-là à l'hôtel, alors que ma famille était partie faire la fête. Et en zappant à mon jeune âge, comme ça, je tombe dans un hôtel sur un film porno, quoi.
Et
je me rappelle que ça m'avait beaucoup choqué, quoi. Je pense que j'étais vraiment pas prêt pour ça et j'ai été vraiment perturbé par ce vieux film avec des vieux décors tout pourris et ce mec avec cet énorme sexe. Enfin, je me rappelle d'être vraiment pas du tout avoir été émoustillé et en même temps de rester bloqué sur ce film pendant longtemps.
Tu comprends ce que tu vois à ce moment-là? Tu comprends que on est dans le domaine de la sexualité, que c'est tabou, etc.
Ouais, bien sûr. Je comprends que je suis face là à quelque chose qui est peut-être un peu tabou, voire interdit, et que je suis seul et que je peux me permettre de voir ça, quoi. Et en même temps, ça me choque. En même temps, je suis pas prêt pour ça, quoi. Vraiment pas.
Dans ta famille, alors je me doute de la réponse, mais c'est important de savoir aussi comment c'est appréhendé quand tu es de confession juive, aussi important que ce soit chez toi. Est-ce qu'on parlait de sexualité?
Alors non, mais peut-être, si je me permets un petit préambule, c'est-à-dire que j'ai envie d'en parler, parce que là je vais peut-être dire des choses qui vont peut-être un peu blesser les personnes qui seraient de ma confession et de ma communauté juive orthodoxe. Donc, s'ils devaient m'écouter, je les invite à vraiment à être, extrêmement bienveillants par rapport à ce que je dis. Parce que moi, je suis extrêmement bienveillant par rapport à ma communauté juive. C'est-à-dire que, même si j'en suis sorti maintenant, je regarde cette communauté-là avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et beaucoup d'attachement. Donc voilà, je veux pas les choquer. Il y a un principe juif qui invite les personnes juives à rester pudiques par rapport à la sexualité, à ne pas trop en parler. Mais je trouve que il est aussi important d'en parler pour éviter certains travers. Et moi, je trouve que avec le temps, je fais un petit teasing là. Avec le temps, j'ai traversé quelques travers et je trouve que c'est dommage de passer par là. Du coup, voilà, ça me semblait important de témoigner aussi pour ça.
C'est super, en tout cas de le dire et d'avoir cette approche aussi bienveillante et respectueuse, tu vois, de ta confession et des gens qui vont peut-être t'entendre, de dire que c'est surtout de la tolérance et de l'ouverture d'esprit avant tout.
Ouais, bien sûr. Du coup, pour répondre à ta question, moi, dans ma famille, c'était pas du tout parlé, quoi. La question de la sexualité, c'était... mais vraiment, il y avait une chape de plomb, quoi. Je sentais que c'était vraiment un vrai tabou. La seule personne qui nous a parlé de sexualité, c'était dans mon école, qui était une école juive, bien entendu. Au primaire, j'ai dû être en CM1, en CM2, tu vois, donc on était là, je sais pas, 8-9 ans. Et on avait un prof qui était plutôt cool, tu vois, qui était une personne de confession juive orthodoxe, mais qui avait fait un retour à la religion, et d'accord, qui était fan de nature, de biologie, et qui, lui, je me rappelle très bien, parce qu'il était hyper stressé, je me rappelle très bien de ce souvenir de voir marcher tout le long de la classe, comme ça, avant de nous parler de comment on fait des bébés, quoi. Et tu vois, là aussi, j'en suis très reconnaissant, parce que c'est le seul gars qui m'a parlé de sexualité, même si à l'époque j'avais rien compris, je pense que j'avais pas tilté du tout de quoi il me parlait. Mais je suis reconnaissant parce que voilà, il avait parlé de ça et c'était le seul.
Ok. Donc tu sais, tu comprends comment se passe la procréation et comment les enfants naissent, mais tu as aucune approche de la sexualité jusqu'à à peu près quel âge, tu t'en rappelles?
Alors je vais dire un truc un peu bizarre, mais déjà lorsque ce prof, donc j'ai 19 ans, il raconte. Tu vois, tu peux comprendre des choses, mais sans les réaliser, en fait. Et moi, dans ma tête, je pense que ça avait pas fait sens. Et de la même manière que lorsqu'à 12 ans, je regarde ce film porno, je vois qu'il se passe un truc sexuel, ça fait pas forcément sens non plus pour moi.
D'accord.
Et en fait, il y a eu chez moi, en tout cas, un émouvement à la puberté assez fort, mais il n'empêche que, d'ailleurs, je l'ai raconté à mes anciennes copines, quoi, et ça les choquait, enfin, elles étaient assez interpellées, quoi. C'est que moi, ma première masturbation, c'était à 17 ans.
Ok.
Tu vois, donc, comme si, un parcours, d'intellectualisation, d'élaboration sur la sexualité qui a été assez lent chez moi, je pense.
Oui, parce que comme tu dis aussi, dans la communauté, dans laquelle tu as évolué, c'est quelque chose qui est tabou, très tabou. Et si je ne m'abuse, on fait en sorte que justement les esprits ne soient pas échauffés par rapport à ça.
Alors ouais, je pense que majoritairement ouais. Je ne me permettrai pas de généraliser parce que je pense qu'il y a des personnes dans toutes les communautés, dans toutes les religions, même si elles sont extrêmes, qui s'autoriseraient à parler de sexualité. Mais tu vois, en tout cas chez moi, dans mon cercle familial et social proche, non, on ne parlait pas de sexualité, c'était pas du tout possible, quoi.
Tu passes ton adolescence et ta puberté, c'est-à-dire il y a des mois envers les garçons, les filles, au collège, au lycée, ou c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ton développement ?
Alors, j'aurais bien aimé, mais comment dire, déjà, moi, j'ai grandi dans une école où il n'y avait pas de filles. Alors, j'ai beaucoup changé d'école, mais disons, j'ai eu la chance, entre la sixième et la troisième, d'être dans une école où il y avait des filles, mais c'était, les classes étaient séparées.
Okay.
Du coup, c'était sympa, je les voyais à la récré de loin, je pouvais un peu me moustiller, essayer de rêver sur les filles. Mais tu vois, primaire, il n'y avait pas de filles. Et après, moi, je suis allé vraiment dans une école très, très orthodoxe, de la troisième à la fin de la scolarité. Et là, il y avait zéro fille, quoi. Du coup, j'ai pas pu rencontrer des filles, j'ai pas pu tomber amoureux. C'est pas quelque chose qui a fait partie de mon adolescence, quoi.
Et au-delà de l'école, t'avais pas de jeunes filles avec qui tu pouvais échanger ?
Bah, tu vois, c'est rigolo parce que maintenant, avec du recul, je me rappelle d'une scène où c'était à une fête de famille et j'avais une cousine à côté de moi. J'avais très peu, on se connaissait, c'était une cousine éloignée, tu vois, on n'avait jamais parlé ensemble. Et elle était moins pratiquante que moi, moins religieuse que moi. Et je devais avoir 13-14 ans et je me suis juste pas autorisé à lui parler. On était assis l'un à côté de l'autre à table. Et je lui ai pas ouvert la bouche, quoi, rien du tout.
Ok. Et pourquoi ? Enfin, c'est, pardon pour mes questions très naïves, hein, mais pourquoi tu t'autorisais pas ?
Bah, je pense que, comme il y a une forme de non-dit sur la sexualité, en tout cas, moi, je l'ai interprété comme étant quelque chose d'extrêmement grave. Alors, la sexualité, l'amour, l'affection, tu vois, la tendresse, tout ça, enfin, c'est quelque chose qui est, comme c'est non-dit, c'est pas dit, et ben, il faut pas que ça se dise, il faut pas que ça sorte, tu vois. Et du coup, cette chape de plomb, elle a pesé sur moi pendant longtemps. Ouais.
Je comprends. Donc, tu arrives... Donc, tu fais ce lycée qu'avec des garçons.
Ouais, ouais.
Est-ce que... Parce que j'ai eu hein, des invités comme ça, où quand ils sont entre garçons, à l'internat, etc., ils ont quelques jeux, justement, autour de la sexualité. Ou alors, sans parler rentrer vraiment dans le détail, mais... Ils vont se comparer sous la douche, ils vont parler de leurs petites amies, de leur histoire. Est-ce que vous, entre vous, vous aviez ces échanges-là ?
Alors nous, notre seule source d'émoi, c'était les filles qui passaient, qu'on voyait passer par la fenêtre. On avait notre école qui était dans un quartier, alors c'était une école très pauvre et très peu subventionnée, mais elle était située dans un quartier assez riche et on voyait ces jolies femmes, joliment apprêtées, passer dans la rue. Et c'était un peu le seul truc qui nous réveillait un petit peu, quoi.
D'accord.
Mais on en parlait pas tellement entre copains. Alors, entre moi, j'avais 2-3 potes proches, tu vois, et avec eux on en parlait, mais sinon non, on en parlait pas, quoi. On en parlait pas.
Et entre vous, là je parle vraiment de jeux entre vous, ça n'existait pas?
Non, on se regardait pas, nos kékettes, on se masturbait pas ensemble, pas du tout. Genre, pour te donner un ordre d'idée, les trucs les plus fous qu'on avait fait, c'était, pas très loin, il y avait un hôpital, une clinique, là. Et des fois, on partait de l'école, parce qu'il n'y avait pas de café ni rien, on partait de l'école pour s'acheter un café là-bas, tu vois, dans le distributeur. Et on regardait les magazines à côté, tu vois, c'était une sorte de salle d'attente, tu vois, donc t'avais un Elle ou un, je sais pas, un Biba ou je sais pas trop quoi. Et donc, les plus grosses folies qu'on faisait, c'était regarder Elle ou Biba.
Les filles en maillot de bain.
Exactement. Voilà.
Ah oui, effectivement. C'est... Donc, tu fais ce lycée, donc vraiment coupé de la gente féminine, si je peux me permettre d'avoir ce mot-là. Donc, tu vois pas les jeunes filles, tu vis ta puberté avec toi, donc ton corps change. Comment ça se passe, la puberté, chez toi, Samuel ?
Je comprends pas. Je comprends pas très bien.
Que ton corps change ?
Ouais, je comprends pas très bien que mon corps change. Et là aussi, moi, ça m'a fait peur. Tu sais, chez les hommes, parfois, t'as des sortes de... Alors, c'est pas très jojo à dire, mais t'as des sortes d'écoulements, éjaculations un peu pendant que tu dors. Je comprends pas ce qu'on
appelle les pollutions nocturnes.
Ouais, exactement, les pollutions nocturnes. Alors, je pense que ça fait partie vraiment de ma famille. Je pense que d'autres personnes qui auraient grandi dans le même lieu que moi... Ce serait autorisé à en parler. Moi, je ne me suis pas autorisé à poser la question. Je me rappelle très bien avoir me réveiller le matin, être un peu inquiet, et je me suis dit, mais est-ce que je vais demander à ma mère, quoi? Mais en fait, je ne me suis pas autorisé à le faire. Je pensais que c'était trop tabou, trop sale d'en parler.
Donc, cette puberté-là, elle est un peu compliquée à comprendre. Comment tu appréhendes ton corps qui change?
je m'aime pas beaucoup, pas du tout physiquement. Alors maintenant ça va mieux, mais à l'époque j'étais tu vois une sorte de cube comme ça, un peu costaud, mais en même temps un peu rondouillé. Du coup j'ai mis beaucoup de temps à me regarder dans un miroir et à m'apprécier. C'est venu vraiment tard, tu vois, 22, 23, 24 ans. C'était une période où j'ai fait beaucoup de sport, où je me suis beaucoup affiné, mais à l'époque, c'était juste pas possible, quoi.
Donc, tu finis ton lycée, mm-hmm. et c'est là où tu vas commencer à faire tes études supérieures?
Ouais. Alors, chez nous, dans les communautés orthodoxes, en général, les hommes ne sont pas forcément invités à faire des études supérieures, comme on dit en France, des études universitaires ou autres.
Okay.
Nous, on part à la yeshiva. La yeshiva, c'est une école talmudique, en fait. On apprend le Talmud. Et du coup, moi, je pars en Israël, dans un quartier vraiment ultra-orthodoxe de Jérusalem, où je vais vivre pendant 3 ans au sein de cette école, vraiment un internat pour hommes. Et je vais apprendre des rudiments du Talmud.
Mm-hmm.
Voilà.
Comment tu vis c'est ton choix de partir?
Là, c'est une question qu'on me pose souvent lorsque je raconte maintenant à mes amis qui ne connaissent pas ce milieu-là. Et je réponds toujours à la même chose, c'est-à-dire que je pense que oui, c'est mon choix, et en même temps, bah, forcément, je suis conditionné par un environnement très, très englobant, quoi. Et du coup, oui, je suis, disons plutôt que je suis le chemin, quoi. Je suis le moule, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein, je suis la continuité des choses, quoi.
Alors, pardon pour mon ignorance encore une fois, mais c'est quoi la différence entre la Torah et le Talmud?
Alors la Torah, c'est plutôt l'enseignement écrit, et le Talmud, d'accord, c'est plutôt l'interprétation orale de cet enseignement-là.
D'accord.
Là encore, le Talmud, moi, je trouve que c'est un exercice extraordinaire, parce que, tu vois, même si j'y étudie plus trop, hein, mais... C'est un chouette exercice, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très oral, où on va discuter, analyser un problème dans tous les sens, en discutant avec un collègue. Il y a quelque chose de très, comment dire, intellectuellement riche, quoi. Et en même temps, ça se fait à deux, dans le dialogue, donc c'est une très belle expérience. Mais le souci, c'est que, en tout cas pour moi, ça s'est fait dans un monde extrêmement orthodoxe, donc avec des codes extrêmement fermés, extrêmement durs, extrêmement rigides. Et donc c'est pas tant l'étude du Talmud qui a été difficile pour moi, c'était plutôt l'environnement social.
Donc ton environnement social se limite à tes collègues et aux enseignants du Talmud, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Et le week-end, j'imagine, où quand tu n'étudies pas, tu peux sortir?
Non, en fait, ça j'ai appris depuis le lycée, en fait. Et là, tu vois, je pense que au lycée et puis après à la yeshiva, donc à l'école talmudique, J'ai changé de niveau, quoi. C'est-à-dire que je pense que mon collège, c'était un niveau orthodoxe, hein, et mm-hmm. le lycée, école talmudique, je suis passé dans l'ultra-orthodoxie, parce que, par exemple, il y avait une sorte de contrôle permanent, et donc je pouvais pas m'habiller comme je voulais, donc même dans ma ville, même en France, quoi, je pouvais pas m'habiller comme je voulais, je pouvais pas sortir comme je voulais. C'est-à-dire que nous, quand on était au lycée, qu'on voulait aller au cinéma, par exemple, eh ben, on avait très peur de se faire choper, quoi. Parce que si tel rabbin ou tel maître nous voyait au cinéma, on risquait de se faire renvoyer. Tu vois?
Ouais,
dans l'ultra-orthodoxie, il y a vraiment quelque chose de très fermé. On passe dans un niveau qui est plus, plus fermé et plus totalitaire, malheureusement.
Il n'y a plus de séparation de l'enseignement et de la maison et de la vie à côté, quoi. C'est-à-dire que t'es vraiment, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que tu dis, c'est que tu appartiens 100% à ta communauté tout le temps.
Exactement.
Ok. Donc, quand tu es en Israël, est-ce que... Donc, tu es vierge, tu n'as pas encore eu d'expérience avec les filles, le sexe féminin est plutôt étranger jusqu'à maintenant.
Complètement.
Comment c'est intégré, ça, dans ton école et dans ton apprentissage? Vous parlez forcément des femmes et des rapports maritaux?
Ouais, exactement, ouais. Alors du coup moi j'ai commencé à m'assurer juste avant de partir à l'école talmudique, donc disons que j'ai un peu expérimenté ça pendant le séjour dans cette école.
J'imagine que les hormones sont on fire à 17 ans.
Grave, complètement. Alors, ce qui est, on va dire, admis, c'est que en général, dans ce milieu-là, donc t'étudies le Talmud pendant 2-3 ans, soit t'es quelqu'un d'extrêmement doué dans le Talmud, donc tu vas tracer ton chemin là-dedans, tu vas devenir un maître, un sage, un enseignant, soit ça va faire partie de ta vie, mais tu vas devoir continuer à bosser à côté quand même, tu vois. Mais dans tous les cas, au bout de 3 ans, c'est un peu le plus près, mon gars, ça suffit, t'as bien étudié, faut que tu te maries, quoi. Donc, les femmes sont appréhendées comme étant un passage, c'est une découverte, mais une découverte assez courte, quoi. Tu rencontres une femme, si elle te plaît, tu te maries avec elle, et puis basta, tu vas faire ta vie avec, quoi.
On n'est pas dans le fantasme un peu parfois dépeint, justement des gens qui ne connaissent pas, où la femme qui va t'être destinée, on l'aide un petit peu à la mettre sur ton chemin.
Oui, il y a ça aussi, c'est-à-dire que, en tout cas dans les milieux ultra, encore une fois, c'est un environnement social assez assez rigide, et donc on va te proposer plusieurs femmes qui correspondent un petit peu à ton, je sais pas, à ton rang, à tes ça, c'est souvent des connaissances de ta famille, des choses comme ça, tu vois, des amis, et donc on te fait rencontrer une ou deux femmes, et puis en général, c'est assez rapide, toi. Tu la rencontres 3, 4, 5 fois. Le but de la rencontre est très clair, hein, c'est pour se marier, quoi. Il n'y a pas de chichi d'à côté, tu vois. Et du coup, si ça fonctionne, c'est parti, quoi. C'est parti pour la vie.
Waouh!
Ouais, dit comme ça, c'est peut-être un peu effrayant.
C'est à la fois effrayant et en même temps, c'est très beau. Enfin, tu vois, c'est très beau pour les gens qui aiment cette idée de tu vois, de vie monogame avec un unique amour. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que en 2020, on en revient un petit peu de ce schéma-là. Donc c'est vrai que c'est étonnant de l'entendre encore, tu vois.
Ouais, ouais. Et c'est une théorie en fait qui porte. Mais déjà, je veux dire que peut-être contrairement au christianisme. Le divorce est possible dans la religion juive, même si c'est compliqué, et même s'il y a des grands débats, justement, en Israël, parce que, enfin bref, les femmes, il y a une inégalité par rapport au divorce, c'est-à-dire qu'un homme peut divorcer une femme, c'est plus compliqué, en tout cas, lorsque tu corresponds bien au modèle, lorsque tu te sens bien socialement dans ce milieu-là, tu vis pas ça du tout comme une contrainte, tu vis ça plutôt comme, t'as rencontré la femme qui est la meilleure, la mieux pour toi dans ta vie, quelque part, toutes les problématiques que tu rencontrerais chez nous dans notre monde occidental, où on va beaucoup se poser de questions, on va se séparer, se remettre en couple, tout ça, là c'est solutionné quelque part. Tu vois, il y a quelque chose de très très simple, de très soulageant en fait. T'as ta femme, c'est celle-là. Tu vas devoir, c'est pour le meilleur et pour le pire, quoi. Tu vas devoir te la coltiner toute ta vie, ou bien tu vas pouvoir vivre des très belles choses avec elle, quoi.
Non, sur le papier, c'est pas mal aussi. Hein. donc, tu fais cet enseignement pendant 3 ans. Mm-hmm. Pendant 3 ans, comment ça se passe pour toi, ton éveil sexuel et sensuel? Parce que là, tu es tout jeune, t'as 18 ans.
Ouais.
Tu vas y passer, donc tu as tout début de vingtaine. Mm-hmm. Comment ça se passe?
Moi, j'ai un réel émerveillement sur les femmes américaines, les séminaires. Parce qu'en fait, dans ces milieux-là, les hommes vont à l'école talmudique, hein, et les femmes vont au séminaire pour aussi apprendre les règles de la Torah, peut-être apprendre des règles un peu plus liées aux femmes, parce que c'est quand même très compartimenté, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, tu vois. Mm-hmm. Se préparer à se marier aussi, parce qu'elles se marient en général, elles font 1 ou 2 ans de séminaire, et puis après elles se marient. Et moi, je vois dans la rue, en fait, hein, je discute pas avec elles, hein, mais je les vois dans la rue, et je vois des jolies américaines qui sont un peu plus apprêtées, tu vois, même si elles sont très orthodoxes, si elles ont l'habillement classique, mais il y a des petites
touches. C'est quoi l'habillement classique orthodoxe?
Une femme, elle doit avoir une jupe qui descend jusqu'au genou, elle doit pas montrer ses bras, elle doit pas montrer sa poitrine, tu vois, c'est très. Ouais, les américaines, parce que tu vois, elles avaient des pulls gap, elles avaient. C'est une fraîcheur en fait, parce que forcément, même si tu vis dans un monde extrêmement fermé, très fermant, opaque, tu vois, il y a quand même une étanchéité qui opère. Et les Américaines de New York ou je sais pas trop d'où, il y a forcément, tu vois, la culture américaine qui traverse un petit peu tout ça. Et du coup, je le sentais ça. Et je voyais ces jolies filles un peu plus apprêtées, et ouais, ça me faisait quelque chose.
Ok. Donc ça, c'est pendant tes 3 ans là-bas?
Ouais, ouais, ouais.
Et tu parlais tout à l'heure d'une rupture qui s'est opérée.
Oui, 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 parce que alors moi j'ai quand même eu la chance de passer mon bac, hein, ce qui est une chance. Donc j'ai quand même eu accès à des bouquins de littérature.
Et puis j'ai eu comment ça se fait que tu as passé ton bac? C'était une demande de ta part?
Non, c'était ma famille qui tenait quand même à ce que je passe mon bac.
D'accord.
Au cas où, si je suis pas un bon talmudiste, au moins que je puisse rentrer en France, faire des études secondaires et avoir un boulot, quoi.
Super.
Ouais, c'est une chance, hein, parce que moi, j'ai rencontré des amis à moi qui n'ont pas eu cette chance-là et qui, du coup, après, c'est vraiment plus compliqué pour eux, quoi.
En plus, après, il y a un effet un peu pervers dans le sens où, je pèse mes mots, mais dans le sens où, effectivement, si tu n'as pas pu intégrer la société dans laquelle tu es avec, effectivement, un pass qui est le baccalauréat ou des études, bah, du coup, tu deviens assez dépendant, j'imagine, de la communauté. Et il y a quelque chose, tu vois, qui fait que tu ne peux pas trop en sortir ou du moins, changer de voie si tu le souhaites.
Exactement. Quelque chose de, tu restes dans l'intra-communautaire et ouais, des fois, ça peut être compliqué, ouais. Du coup, moi, ce qui a fait rupture, encore une fois, donc j'ai eu cette culture plus occidentale, voire même française, tu vois. Avec moi, j'avais beaucoup accroché sur la littérature, donc j'avais eu comme ça quelques bouquins qui avaient fait référence pour moi, qui avaient opéré en moi. Puis j'avais aussi rencontré des maîtres, parce que je n'ai pas envie de taper non plus tout le temps sur ma communauté. J'avais rencontré des rabbins, des sages juifs, qui étaient aussi des rabbins éclairés, tu vois, et qui du coup m'avaient touché en moi quelque chose de questions existentialistes profondes et qui me montrait que l'étude du Talmud pouvait apporter des questionnements, voire des réponses sur un vécu existentialiste fort. Des questions toutes simples sur les relations de femmes, sur les relations avec Dieu, sur la relation avec la nature. Et lorsque je suis arrivé en Israël, malheureusement, le monde ultra-orthodoxe était beaucoup trop normé et c'est-à-dire que même le goût que j'avais un petit peu dans le Talmud avec ces questions existentialistes, je l'ai perdu. Il n'y avait plus de sens, en fait. Je me suis retrouvé très, très seul parce que le Talmud était étudié de façon très, très, très froide, très normative, très légaliste. Je ne sais pas si ça se dit, mais tu vois, on se posait des questions très légales. Le droit juif des années, il y a moins de 1000 ans, quoi. Je veux dire, donc c'était complètement anachronique. Et je me suis vraiment, ça a fait rupture, quoi. C'est comme si tu es dans un rêve, tu es porté par un rêve, par un idéal où tu vas découvrir, surtout quand t'es adolescent, t'es jeune, tu vois, t'as un goût de l'absolu, t'as un goût de la vérité, et lorsqu'il y a quelque chose qui vient faire barrage, tu casses ce rêve, tu casses cet idéal, et à un moment pour moi, ça fait rupture, je me suis plus du tout retrouvé, quoi.
Donc, comment tu vis cette rupture? C'est quelque chose que tu verbalises ou tu t'es laissé faire ces 3 ans d'apprentissage du Talmud pour rentrer après en France?
Alors, ça a été très compliqué. Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me reconstruire après tout ça parce que j'étais complètement perdu. J'avais plus de modèles, j'avais plus de repères. Ça aussi, je pense que ce sont des moments forts parce que lorsque t'es porté par un système de cette façon-là, aussi forte, aussi enveloppante, lorsque tu te rends compte que tu ne corresponds plus au système, que t'es plus dans la norme, que tout ce rêve, tout cet idéal sur la Torah, le Talmud, lorsqu'il est perdu, lorsqu'il s'efface un petit peu, ben après, t'es nu, en fait. T'es nu, seul, sans les autres, et se reconstruire, c'est compliqué.
Oui, il y a une forme de marginalisation qui s'opère.
Ouais, ouais, ouais. Mais même avant même la marginalisation, dans ta tête, tu sais plus sur quoi t'identifier, à quoi te raccrocher, tu vois, à quel rêve, à quelle envie, à quelle espérance. Et du coup, moi, j'ai mis beaucoup de temps à me reconstruire. Je suis passé un an au fond de mon lit, après, je suis rentré, enfin, tu vois, la dernière année d'école talmudique, je l'ai passé vraiment au fond de mon lit parce que j'étais complètement paumé. Je suis rentré en France, j'ai fait la gueule à mes parents, ça a été extrêmement conflictuel pendant longtemps, je me suis cherché, j'ai fait plein de petits boulots.
Tes schémas se cassent et du coup, peut-être que tu ne vas pas avoir la vie à laquelle tu t'attendais. Donc, est-ce que tu vas chercher quelque chose en dehors des murs de la communauté?
Ouais, alors j'essaie de me raccrocher à d'autres rêves, en tout cas d'autres idéaux. Moi, je rentre en France et alors parce que dans ma famille, c'est aussi compliqué, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'environnement social qui des fois un peu coercitif comme ça, mais en dehors de ça, moi, dans ma famille, c'était assez conflictuel dès le départ. Je sentais qu'il y avait des soucis, quoi. Il y avait des tensions, il y avait des problèmes relationnels. Lorsque je rentre en France, je me rends compte que mon seul salut quelque part, c'est de comprendre les enjeux familiaux. Donc on l'a pas dit, moi je suis maintenant psychologue, mais cette vocation de la psychologie, elle est née de là. Et je pense que je suis sorti un peu de mon marasme et de de mon désespoir en réfléchissant aux relations familiales qui se jouaient, les enjeux familiaux qui opéraient dans ma famille et en moi. Et du coup, quand je suis arrivé en France, et même un peu avant, quand j'étais encore en Israël, j'étais seul et j'écrivais beaucoup dans mes carnets à essayer de comprendre ce qui jouait dans ma vie, ce qui jouait dans ma famille. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait. C'est tout con, hein, mais le fait de s'asseoir avec un stylo, une feuille, et de poser par écrit des réflexions comme ça qui te hantent, parce que moi, j'étais quand même hanté par toutes ces questions-là. J'étais vraiment vraiment mal, quoi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, petit à petit, en cheminant, ça, je me suis rendu compte que c'était ce vers quoi j'avais envie d'aller. Essayer de mieux comprendre le fonctionnement humain, essayer de mieux comprendre les relations intra-humaines, en fait. Tu vois, ça a été important pour moi. Ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps, mais ça m'a permis de voir autre chose, quoi.
Et c'est ça qui a, à ton avis, déclenché ta vocation?
De psy, ouais, clairement, ouais.
Ok.
Il y a un moment où, tu vois, j'avais plus le choix. Et je pense que, soit je comprenais ce qui se passait dans ma famille, et je comprenais parce que, tu vois, ça fait écho. Il se passe des choses difficiles dans ta famille. Moi, ça faisait écho en moi. Moi, j'étais pris par des critiques. Je me détestais, je m'auto-critiquais, je m'auto-dévalorisais tout le temps, à tel point que ça m'empêchait de penser, de réfléchir, de me concentrer, quoi. Je te parle de ça, c'était quand j'étais encore à l'école talmudique. Donc, j'avais pas le choix, en fait. Du coup, face à cette obligation, je me suis mis à essayer de détricoter un peu tout ça. Et puis, ça m'a fait tellement de bien que, effectivement, j'ai eu envie de continuer là-dedans, en fait. De continuer dans cette compréhension de soi, des autres, etc.
Ok, je comprends. Et donc maintenant que tu es rentré en France et que tu as cette année compliquée de transition, à quel moment tu vas de ton côté entre guillemets décider de ne pas vivre cette vie-là et d'aller embrasser la culture plus occidentale, même si je déteste cette façon de procéder, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, tu vas décider d'aller t'ouvrir vers les femmes. Qui ne sont pas de ta communauté?
Je pense que ça s'est fait de manière progressive. Tu vois, j'ai pas tout fait péter d'un coup. Je me suis mis à manger du porc et à fumer du shit. J'étais pas à ce point-là.
Ça s'appelle la crise d'adolescence, Samuel.
Ouais, mais j'ai pas eu le droit, moi, tout ça. Mais enfin, bref, ça s'est fait de façon progressive. Mais ce qui est sûr, c'est quand je suis rentré en France, déjà dans ma tête, c'était clair que j'allais pas me marier à 21 ans.
Ah, c'était déjà clair pour toi à ce moment-là?
Ouais. Okay. Moi, j'avais été vraiment. J'étais tellement d'instabilité que je voyais mes potes se marier les uns après les autres, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Je voyais, tu sais, la scène du mariage, tu sais, chez nous, en plus, t'as un dé, ce qu'on appelle un dé nuptial et tout, et moi, je voyais l'échafaud, quoi. Je voyais les mecs aller à l'échafaud, quoi.
Ah ouais, c'est violent, ouais.
Ouais, c'était terrible. Du coup, ouais, ça s'est fait de façon progressive, je me suis beaucoup cherché, moi, avant d'aller à la fac de psycho, j'avais 25, 26 ans. J'ai essayé un an de médecine, j'ai fait plein de petits boulots, j'étais serveur, caissier, manutentionnaire. C'est pas rien, quoi. Ça m'a mis 3-4 ans avant de me retrouver vraiment et puis m'autoriser à me dire, écoute, t'aimes la psycho, bouge tes fesses et inscris-toi à la fac de psycho, quoi.
Mais tous ces petits jobs, ils t'ont permis aussi d'appréhender, entre guillemets, la vie dans laquelle tu évoluais, mais comme tu le disais très bien, de façon assez opaque jusqu'à maintenant. Parce que, de fait, quand tu commences ces petits boulots, tu es plongé avec des hommes, des femmes qui travaillent, avec le rapport de séduction, avec peut-être le flirt, peut-être la drague, etc. Comment tu vis ça? Parce que ça a dû être assez violent, toi qui avais jusqu'à maintenant pas eu d'échange avec des jeunes filles et des jeunes femmes.
Eh bien, ça a été une vraie révélation, je dois te dire. Parce que du coup, j'étais serveur dans un restaurant et puis... il y avait une femme qui venait assez régulièrement, puis on s'est bien plu, et puis ça allait un peu plus loin, quoi. Mais ça a été ça a été un monde qui s'ouvrait devant moi, quoi. C'était la première fois de ma vie, c'était très impressionnant. Et en même temps, ça a été c'était un très beau moment. Et petit à petit, voilà, c'est grâce à ça en fait que effectivement, rentrer dans ce nouvel univers, s'autoriser à rentrer dans cet nouvel univers de monde un peu plus occidentalisé, un peu plus mixte aussi, hein, parce que voilà, des hommes, des femmes, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis je me suis dit, voilà, j'ai plus envie d'être dans cet univers-là, quoi.
Comment ça se passe? Tu t'en rappelles ton tout premier baiser?
Ouais, elle avait des bagues, comment on dit, un appareil dentaire. C'était une femme de 30 ans qui se refaisait les dents. Je me rappelle que mon premier baiser, c'est surtout la sensation de l'appareil dentaire, quoi.
Ah ouais, puis là, pour, en plus, une fille de 30 ans, c'est pas, enfin, c'est plus rare, quoi, donc.
Ouais, okay. Mais mais pour autant, c'est un très beau souvenir, hein. C'était un très beau souvenir, et puis moi, j'ai été extrêmement effrayé, donc, juste pour le dire, j'ai pas couché avec cette fille, j'ai pas eu un rapport sexuel, en tout cas, j'ai pas eu un rapport de pénétration avec cette fille parce que j'avais trop peur, en fait. Je me disais, mais je vais pas être performant, et puis c'est grave, et puis tu vois, c'était trop frais encore pour moi.
C'est à quel âge que tu as embrassé cette fille?
Alors moi, je devais avoir, je pense, je m'en rappelle plus trop, mais elle aura 22, 23 ans.
Comment ça se passe le rapport justement avec tes parents? Est-ce qu'ils sont, j'imagine, peinés de te voir
Alors à l'époque, ils ne voient pas trop ce que je fais. Ils sentent que, voilà, de toute façon, ils sentent que c'est conflictuel. Je pense que j'aurais fait la misère aussi, avec du recul. Moi aussi, j'étais pris... tellement dans le doute, dans le questionnement, que je leur ai renvoyé beaucoup de choses. Je les ai clairement fait souffrir, hein, parce que je les critiquais, je leur en voulais. Du coup, ça a été vraiment difficile aussi pour mes parents, à mon avis. Et puis, ils n'avaient pas les outils pour, tu vois. Ils se sont construits dans la religion juive, orthodoxe. Ils n'étaient pas trop branchés psy, pas trop... Je pense qu'ils pigeaient même pas ce que je leur voulais, quoi. Donc, c'était très conflictuel, et moins on se voyait, mieux c'était, quoi. Mais pour te raconter une anecdote, donc après cette jeune fille que je rencontre au restaurant, j'ai rencontré une autre femme, et avec elle j'ai été en couple pendant longtemps, j'étais dans une relation longue de presque 5 ans. Et juste pour l'anecdote, donc lorsque j'ai commencé à rencontrer cette femme, on se promenait et mon père nous croise de loin. Et moi je l'ai pas vu, mais lui il nous voit. Et ça l'a profondément bouleversé, quoi, parce que il a compris que son fils, il sortait avec une fille. Il n'était pas marié avec une fille, tu vois. Il sortait avec une fille.
Waouh. Et il t'en a jamais parlé?
Si, alors c'est un fonctionnement un peu familial. Où il ne parlait pas des choses, mais il les faisait passer par ma mère. Donc ma mère est venue me voir en me disant oh, « ton père a été quand même très choqué. Il t'a vu avec cette fille, tu vois. »
Donc c'est avec elle que tu auras une relation longue, c'est ça?
Ouais, exactement.
Et donc c'est avec elle, j'imagine, par déduction, que tu vas avoir ta première fois.
Alors c'est un peu compliqué, mais du coup elle c'est une femme juive qui est moins pratiquante que moi, mais pour autant c'est important pour elle de pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Donc en fait on a été en couple pendant presque 5 ans, mais il y avait un petit peu, tu vois, c'est pas une belle image, mais il y avait un peu la carotte derrière le bâton, quoi, devant le bâton.
C'est-à-dire que c'était le mariage qui t'aurait permis d'avoir des relations sexuelles avec elle.
Voilà, mais on se faisait des câlins. Hein, genre, voilà. On a découvert nos corps mutuellement sans passer par un rapport sexuel de type pénétration. Mais on s'est quand même... Voilà, fait du bien tous les deux et ça a été une belle découverte aussi pour moi. Mais plus que ça, je pense que... Je disais juste que sur le plan relationnel, en fait, cette jeune femme a apporté beaucoup, beaucoup de stabilité. Parce que elle venait d'une famille beaucoup moins problématique, qui est extrêmement stable, sécurisante. Et moi, qui étais dans cette phase de doute et de questionnement, et je savais plus trop vers quoi j'avais envie de tendre, la relation avec cette femme-là m'a fait beaucoup, beaucoup de bien parce qu'elle m'a appris en fait parce qu'elle était elle-même, elle était confiante, elle se sentait bien dans sa peau, elle avait des relations amicales nombreuses. Rien que ça, ce contexte-là faisait que moi, j'ai appris plus à m'accepter, à m'autoriser, à m'écouter, parce que c'est quelque chose, malheureusement, moi, je pense que c'est la plus grosse critique que je pourrais faire de la communauté ultra-orthodoxe, c'est que il y a des chercheurs, hein, parce que moi, après, j'ai cherché là-dessus, j'ai lu des textes vachement intéressants, mais lorsqu'on te demande, dès que t'es tout petit, de pas trop t'écouter, de pas être trop écouter tes émotions, tes sensations, mais de plutôt suivre le chemin de Dieu, très jeune, en fait, t'apprends un peu à te décentrer de toi et à ne plus écouter ta petite voix, qui est une petite voix qui peut être rassurante, qui peut être, consolante. Et du coup, moi, j'ai pas eu tout ça. Et j'étais toujours en lutte avec moi-même, en fait. Et être en contact avec cette fille, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien par rapport à ça. Et en fait, quelque part, c'est un peu paradoxal, mais grâce à elle, je me suis autorisé à penser que j'avais envie de faire psycho. Grâce à elle, et là est le paradoxe, je me suis autorisé à penser que ben c'était une fille très chouette, mais que c'était pas vers elle que j'avais envie. Enfin, tu vois, c'est surtout en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être dans une relation longue à ce moment-là. J'étais dans trop dans le questionnement et dans le doute et dans l'envie de découvrir. Du coup, grâce à elle, quelque part, je me suis autorisé à la quitter. Et d'ailleurs, lorsque je l'ai quittée, je m'en suis énormément voulu parce que je me disais, mais elle m'a apporté tellement de trucs, tellement de bien, et moi, je sais toujours pas qu'est-ce que j'ai pu lui apporter de bien en échange.
Si elle est restée 5 ans avec toi, c'est qu'il y avait quand même un échange, et en tout cas, vous vous apportiez mutuellement assez pour être heureux.
J'espère. J'espère que je lui ai rendu quelque chose. Ouais.
Donc, tu quittes cette jeune femme. T'es pas très loin de ta trentaine à ce moment-là ?
26 ans. Là aussi, encore une fois, c'est important de le dire, même si c'est douloureux à le dire pour moi. J'ai vécu un peu en sous-marin, c'est-à-dire que être en couple avec cette fille-là, sans avoir des relations sexuelles telles que j'imaginais, donc la pénétration, essayer d'explorer des trucs, ça a été très compliqué pour moi. Et en même temps, il y avait cette chape de plomb, bah vas-y, il faut quand même que tu l'épouses, faut que ça aille vers quelque chose, tu vois, faut que ça aboutisse, entre guillemets. Moi, j'ai vécu un peu en sous-marin. C'est-à-dire qu'il y a un moment, au fond de moi, où je me disais, mais en fait, j'ai pas envie de me marier avec elle, j'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec d'autres femmes, tu vois. Et du coup, je m'autorisais pas à conflictualiser, donc pas lui dire. À la fin de notre relation, moi, ça commençait à me travailler énormément. La question des rapports sexuels, la question de la liberté sexuelle. Et je suis allé rôder un peu du côté, c'est un peu glauque, je suis allé rôder du côté des prostituées, en fait. Et le soir avant ma rupture, là, avec cette fille, je suis allé voir une prostituée, j'ai eu un rapport sexuel qui est tellement loin d'un rapport sexuel, mais bon, enfin bref, et très glauque. Mais n'empêche que j'ai couché avec une prostituée, que le lendemain, j'ai pas dit à ma copine, et je lui ai dit qu'on s'arrêtait là, quoi.
Ouais. Elle a compris ?
Je crois pas qu'elle ait compris que je l'ai trompé entre guillemets, mais elle avait compris déjà avant que ça n'allait pas. J'avais déjà dit oui, j'ai envie qu'on fasse une pause. Il y avait déjà eu des signes avant-coureurs, en tout cas.
Je pense que, enfin, après, tu sais mieux que moi, mais effectivement, peut-être que ce passage chez cette travailleuse du sexe était aussi peut-être pour enfin, te donner un prétexte ou en tout cas une rampe pour rompre avec cette jeune femme qui était somme toute très bien.
Ouais, je pense qu'il y a eu, ça, ouais. Une sorte de détaillage pour s'autoriser à quitter ma copine. Ouais. Mais encore une fois, moi, j'insiste sur le côté un peu sous-marin parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à apprendre à conflictualiser, à dire les choses, à dire ce qui n'allait pas. Et donc à s'autoriser en fait à ne pas, tu vois, c'est presque de la survie, quoi. Moi, j'ai appris à être un peu en mode survivant. Je reste dans mon coin, lorsque ça va pas, je me débrouille tout seul, je me démerde tout seul, mais j'irai au bout de mes envies, mais seul, tu vois. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est un peu un effet pervers du côté fermé du monde ultra-orthodoxe, c'est-à-dire que si ça te plaît pas, tu le fais en cachette, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage.
Donc tu te retrouves célibataire avec cette hôte d'envie de parcourir un peu plus la sexualité. Comment tu vas concrétiser ça ?
Eh ben, ça a été une belle liberté pour moi, très, très clairement. Donc là, j'ai 26 ans, je rentre à la fac de psycho. À la fac de psycho, il y a plein de femmes. Moi, je...
Bien joué.
Ouais. Moi, c'est un moment où je fais beaucoup, beaucoup de sport, donc mon corps s'affine, il s'affûte. Du coup, je sens que s'opère dans le regard des femmes. Ça a été assez incroyable, mais alors que j'étais plutôt rondouillé, plutôt pas très bien stylé, je sens qu'il y a un truc qui s'opère qui fait que là, j'accroche un peu plus le regard des femmes, tu vois. Et rien que ça, c'est génial. Mm-hmm. Ça me narcissise à fond, quoi. Rien que ça.
Mais t'en avais besoin, parce qu'après toute une adolescence où tu vois, tu joues pas jeu de la séduction, etc., c'est un passage... après, tu seras mieux que moi. Tu connais mieux les mécanismes de l'humain, mais enfin en tout cas psychologique de l'humain, mais c'est vrai que tu en as besoin de cette phase un peu de narcissisme où tu sens que tu plais et tu sens que tu fais mouche.
Ouais, c'est vrai que ça me fait du bien. Et en même temps, j'ai toujours ce schéma de je rencontre une femme, c'est pour la vie. Et du coup, je suis très inhibé. Alors peut-être c'est aussi une excuse par rapport au rapport sexuel. Hein. Je pense que c'est beaucoup ça aussi d'ailleurs en parlant. Mais en tout cas, consciemment, ce qui me bloque beaucoup, c'est oui, mais quoi, tu vas rencontrer une fille, tu vas coucher avec elle et puis ciao. Mais c'est pas possible. Toi, t'es un mec droit, t'es un mec bien. Tu peux pas t'autoriser à avoir une aventure, quoi. Alors qu'en fait, avec du recul, je me rends compte que les femmes aussi, à 20 ans, 25 ans, elles ont, dans tous les âges de la vie d'ailleurs, une femme ou un homme a le droit d'avoir un rapport de découverte. Enfin voilà. Mais moi, si je suis trop, tu vois, je suis encore trop normé, old school, et du coup, je m'autorise pas à rencontrer les femmes, même si j'ai pas envie que ça soit la femme de ma vie. Tu vois ce que je veux dire ?
Mmh. Tu es à la fac. C'est le moment où tu te rends compte que tous ces rapports, tout ce jeu de séduction se met en place. Donc, comment tu vis ça ?
Ben, écoute, encore une fois, moi, j'ai beaucoup de plaisir à me rendre compte que je plais aux filles. Enfin, je rencontre plein de femmes, forcément, à la fac de psycho. Je pense qu'on est, même pas 5% de gars pour le reste des femmes. Waouh, je suis dans un. C'est assez rafraîchissant, quoi, clairement, quoi. Ça fait se dire que potentiellement tu peux rencontrer des femmes, c'est génial. Et en même temps, voilà, comme je te disais, j'ai toujours ce truc de. Je m'autorise pas à concrétiser les aventures parce que je me dis merde, mais si t'es avec une femme, faut que t'ailles jusqu'au bout, faut que tu sois sérieux, faut que ceci, cela. Et je pense qu'effectivement, ça. Ce qui joue aussi, c'est la peur, en fait, d'avoir un rapport sexuel, de se mettre nu face à une fille, de devoir être performant. Tu vois, quand tu connais pas. T'en as pas trop parlé, que t'as vu des films porno où t'as des gars qui baisent pendant des heures avec des queues énormes. Moi je pense que ouais. Ça va beaucoup stresser, quoi.
tu te mets un petit coup de pression, quoi.
Ouais, clairement. Et du coup, la première femme avec laquelle j'ai concrétisé, j'étais très attiré par elle et j'ai stressé, quoi. Et j'ai pas réussi à bander, quoi, la première fois. Enfin, c'est venu tard, mais ça a mis du temps, quoi.
C'est dingue, hein, comme quoi finalement le porno ça peut jouer aussi violemment, j'allais dire, sur ce qu'on imagine. On n'est pas encore assez aguerri sur le fait que c'est de la fiction.
Ouais.
Tu vois, c'est des acteurs qui font des performances, c'est pas la réalité, quoi.
Clairement.
D'accord, donc tu as ce rapport avec cette jeune fille et c'est là où commence vraiment le entre guillemets ta vie sexuelle de jeune homme.
Ouais.
Pour
ouais,
toi.
Ouais, clairement, c'est ça, ouais, c'est ça. Rencontrer à la fac, tu vois, 3-4 filles. Je pense que tu vois, j'ai pas été sensible. Je pense qu'il y avait des femmes qui étaient intéressées par moi, qui me faisaient des signes, et moi, je pense que j'ai pas pigé, quoi. Franchement, j'ai dû être passé à côté de plein d'opportunités sexuelles entre guillemets, hein, disons ça. Et puis, du coup, je me sens plus à l'aise aussi avec les femmes et j'arrive aussi à prendre du plaisir parce que, tu vois, quand t'es pris dans ces enjeux de performance, tu prends pas de plaisir au lit, quoi. Au bout de la troisième, quatrième, il y a une relation qui se fait avec une en particulier. Je m'autorise à avoir un peu de plaisir, à mâcher un petit peu.
Comment ça, tu t'autorisais pas à prendre du plaisir?
Comment te dire, toujours cette envie de performer, d'être bien, de faire du bien à l'autre aussi, parce que voilà, moi je savais pas comment caresser une femme, comment lécher une femme, c'est un peu con, mais du coup j'ai regardé un peu sur internet et tout, mais à l'époque il n'y avait pas une auberge pour m'expliquer un peu c'était quoi les relations humaines et tout, quoi. C'était compliqué, et mes potes étaient pas très fins, tu vois, mes potes garçons c'était, tu vois, les potes un peu concon, tu vois, les blagues un peu lourdingues, quoi.
Oui.
Ouais. Et du coup, voilà, je petit à petit, je me suis un peu lâché. Puis j'ai dû rencontrer des femmes qui m'ont mis à l'aise aussi.
Je comprends. Tu finis tes études en continuant et en multipliant les conquêtes, est-ce que tu deviens un don juan absolu ou tu as quand même des petites histoires avec les jeunes femmes que tu rencontres?
J'ai ce côté, je me dis potentiellement je peux rencontrer plein de femmes, c'est génial. Et en même temps, j'ai toujours cette culpabilité de me dire qu'il faut en extérieur, que si j'ai un rapport sexuel avec une femme, et ben, il faut que j'aille jusqu'au bout, que ce soit une relation sérieuse et longue. À quel point que moi, des fois, j'ai une ou deux aventures et les filles ont tout ça, elles comprennent pas, quoi. Je ne comprends pas pourquoi je suis tellement stressé. Bon, enfin, bah, faudrait-il qu'à la fin de mes études, je rencontre une femme avec qui j'aurai une relation pendant 5 ans. Et donc, une relation. Donc, en fait, au bout de mes études, je ne suis pas autorisé vraiment à avoir des aventures. J'en ai eu quelques-unes, puis je rencontre cette jeune femme qui n'est pas juive, qui est étudiante à la faculté de psycho, comme moi. Et on va rester ensemble pendant 5 ans.
Une très belle femme que je vois à la bibliothèque. Elle a un an de plus que moi. Elle a la promo d'au-dessus, tu vois. Elle est en Master 2 lorsque moi je suis en Master 1. Moi, dans ma tête, je me disais, écoute, de toute façon, être le don Juan, comme tu dis, c'est pas possible. Il faut être un gars sérieux. La fille qui te plaît le plus, la plus belle, la plus chouette, la plus sympa, tu la rencontres. Si elle te plaît, bah voilà, tu vis une histoire longue avec, tout en ayant un peu ces démons, justement, d'être un peu un don Juan, de découvrir, d'essayer. Mais il n'empêche que voilà, je rencontre cette très jolie grande femme claire, et on sort ensemble. Il s'avère que c'est très compliqué dans la relation. C'est très compliqué parce que déjà moi j'ai mes démons, et c'est des sacrés démons, en tout cas beaucoup de doutes, beaucoup d'ignorance aussi dans la relation à l'autre, parce qu'au final voilà. Et elle, un profil très particulier, une jeune femme qui a vécu des choses très difficiles dans son enfance, de violence physique, de violence morale, d'harcèlement à l'école. Et du coup, dans le lien, elle, pour le coup, alors que mon ancienne compagne de longue durée a été extrêmement sécurisante, elle est très très insécurisée. Il s'opère dans notre relation quelque chose où je suis toujours en train de la rassurer. Et j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne fonctionne pas tellement, en fait. Ça ne la rassure pas tellement. Et sur le plan sexuel, là aussi, c'est très, très, très compliqué. Elle était avec une femme avant moi, elle sortait avec une femme. Elle n'a jamais été, jamais eu un rapport sexuel avec un homme. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Son corps dit non, quoi. Tout son corps dit non à ma venue, quoi. Tu vois?
Et vous n'arrivez pas à trouver de solution sur le sujet?
Alors, ça prend beaucoup de temps. On essaye de se rassurer. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui essaye vraiment de la réchauffer, mais réchauffer émotionnellement parlant, essayer de la faire rire, essayer de la faire aimer la vie. Et en fait, je me rends compte que petit à petit, je tombe un peu dans ce piège, parce que je pense que c'est un piège quelque part, le piège un peu du sauveur, en fait. Dans une relation amoureuse, tu peux très vite. Mais parce que c'est ça aussi l'amour, je pense, tu vois, c'est aussi donner à l'autre, c'est un peu s'excentrer de soi-même, c'est un peu, tu vois, sortir de soi pour donner à l'autre. Et du coup, moi, j'y vais, mais à 2000%, quoi. Sauf que il y a un petit côté, c'est peine perdue. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté où mes attentes, elles seront jamais, il n'y aura jamais de réponse, en fait, où il y aura une réponse, mais très faible. Et du coup, c'est difficile dans une relation. Mais moi, je m'accroche vraiment à cette relation-là. Je te dresse un tableau hyper négatif, mais il se passe aussi de très belles choses dans notre relation, tu vois. Mais très vite, elle est dans un rapport très exclusif. Mes amis, ils passent à la trappe. Voilà, je vois plus trop mes potes. Avec ma famille, c'est hyper compliqué parce qu'elle n'est pas juive. Du coup, ma famille, ils font la gueule, laisse tomber. Du coup, très très vite, on est très très isolés tous les deux, quoi.
Non, c'est pas très négatif, mais c'est vrai que tu sens que c'est une histoire qui est grave, enfin qui est compliquée, qui est lourde.
Mm-hmm. Exactement, ouais. Il manque de la gaieté, il manque de la légèreté dans cette relation-là, sur le plan amoureux, sur le plan sexuel, ouais, complètement.
Et donc, cette relation va durer combien de temps ?
Elle va durer 5 ans, et avec des remous, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis encore un sous-marin, comme je te disais tout à l'heure. Donc, lorsque ça va pas, je conflictualise pas. Mmh. Et ça se passe mal sur le plan relationnel. Très vite, elle est très jalouse. Elle a très peur que j'aime d'autres filles, que je sois attiré par d'autres filles. C'est toute une histoire. Rien que parler de masturbation avec elle, c'est compliqué. Donc, le sujet de la sexualité est complètement fermé, en fait. Et du coup, tu vois, c'est étonnant parce que moi qui ai vécu dans un univers très fermé, très inhibé par rapport à ces questions-là, je retombe un peu dans un schéma qui m'est familier quelque part. On ne peut pas parler de sexualité, point barre, c'est tout. Et du coup, moi, je fonctionne en sous-marin, et puis je me dis, moi, je l'aime, hein, je l'aime de toutes mes forces, cette femme. Et je me dis, c'est pas possible, sur le plan sexuel, et ben écoute, tu vas, tu vois, un peu avec cette porte ouverte de Don Juan à la fac, où je me rendais compte que j'aurais pu coucher avec plein de filles, je me dis, bah écoute, tu vas avoir des expériences sexuelles, tu vas pas lui dire, mais tu vas rester avec elle, et puis en espérant que ça passe, quoi. Et du coup, j'ai une aventure avec une femme. Avec une femme que je rencontre sur Gliden, là aussi, c'est vraiment pas très, tu vois, quand tu fonctionnes en sous-marin, et moi, avec du recul, je trouve ça vraiment, pas très chouette, quoi, pas très beau. Mais je rencontre une femme sur Gliden, tu sais, ce site internet de rencontre, pour les hommes mariés, enfin, pour les personnes mariées.
Hein, et c'est ça, c'est pour les couples illégitimes. Enfin, en tout cas, pour les gens qui cherchent un amant ou une maîtresse, alors qu'ils sont maritalement, déjà pris. Donc, tu vas sur ce site.
Yes, et du coup, je rencontre donc assez rapidement, je rencontre une femme, tu vois, c'est pas genre la femme qui me plaît physiquement et on baise comme des fous et c'est cool, mais il y a rien d'autre. Non, je rencontre une femme qui aurait pu tout à fait me correspondre, bon, sauf que elle, je pense que un peu comme on en avait parlé tout à l'heure, elle était dans une période où elle avait besoin de rencontrer d'autres hommes pour pouvoir acter la séparation avec son mari, tu vois, ça se passait mal avec D'accord. son mari. Elle a besoin de se séparer de son mari. Mais n'empêche que ça fonctionne bien. Je rencontre une femme qui est, pour le coup, joyeuse, heureuse, qui a du goût à la vie, qui, sur le plan social, sur le plan d'idéologie, elle est écolo, comme moi, tu vois. Ça matche plutôt pas mal, quoi. Mmh. Donc, on n'est pas juste dans un rapport sexuel, une fois, pour un peu, voilà, pour se faire du bien, mais on est plus dans quelque chose qui va suivre son cours pendant quelques mois.
D'accord. Donc, tu as cette double relation.
Exactement. J'ai pendant quelques mois cette double relation, à la fois qui me fait du bien et à la fois qui me déchire. Enfin, je veux dire, il ne faut pas croire que les mecs adultères, c'est tous des pourris sans cœur, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment, vraiment mal, quoi. J'aime beaucoup ma copine et en même temps, je trouve beaucoup de vie et beaucoup de... Ouais, beaucoup de légèreté, de fraîcheur dans cette relation cachée. Mais il n'empêche que il y a un moment où j'arrête parce que j'aime trop ma copine et peut-être quelque part que voilà que j'ai trouvé mon compte, c'est-à-dire que finalement j'ai pu coucher avec, j'ai pu voir autre chose, j'ai pris peut-être plus de goût à la vie et quelque part ça m'a ramené peut-être vers ma copine, tu vois. Donc j'arrête cette relation-là et je me remets dans ma relation avec ma copine. Mais pour autant, sans lui dire. Il y a ce côté où c'est secret, ça s'est passé, le sous-marin, tu vois, il était au fond des mers, il est remonté en haut de la surface, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, quoi. Et du coup, moi en tout cas, je reprends ma vie du couple, quoi. Sauf que un an plus tard, les problèmes recommencent et je sais pas, et cette femme avec qui j'avais une relation adultérine me recontacte et on a à nouveau un soir on couche ensemble, quoi. Mais qu'un soir. Et n'empêche que elle imaginait peut-être qu'on reprenne de façon régulière et moi on couche ensemble et puis ciao, quoi.
Je voulais savoir ce que tu avais découvert avec ta maîtresse avant qu'elle ne revienne te voir une deuxième fois.
Ce que j'avais découvert sur le plan sexuel.
Ouais.
Bah déjà de prendre du plaisir au lit et à tel point que ça me
suffit. C'est une belle découverte.
Mais tellement, et à tel point que ça me surprenait, en fait, j'arrivais pas à la croire. Et avec le temps, j'ai compris, enfin, j'entends, quoi. Mais j'arrivais pas à la croire qu'elle aimait prendre du plaisir avec moi, qu'elle aimait me faire des fellations, des choses comme ça, tu vois. Je me disais, mais c'est pas possible, elle le fait pour me faire plaisir, mais... Et en fait, non, elle aimait nos rapports sexuels, nos contacts charnels, elle aimait vraiment ça. Et ça m'a fait un bien fou, ouais. Franchement, ça m'a fait un bien dedans. Et puis je la trouvais très belle, très sexy, donc ouais, c'était chouette, c'était très chouette.
D'accord, donc elle revient à quelques temps après que tu aies mis fin à cette relation, elle revient te voir, enfin en tout cas elle reprend contact avec toi, vous recouchez ensemble. Comment, dans quel état d'esprit tu es par rapport à ta compagne de l'époque à ce moment-là?
Moi, j'étais toujours déchiré, vraiment déchiré. Et en fait, attends, j'essaie de me rappeler, mais je crois qu'on n'a même pas couché ensemble. Je crois qu'on s'est juste vu.
D'accord.
Un soir, tu vois, et qu'on s'est embrassé, on est allé dans un bar, on a picolé. J'ai pas envie de dire de bêtises, je suis plus très sûr. Mais en tout cas, on s'est revu, on s'est embrassé, ça c'est sûr. Et je crois que là, je lui dis clairement, mais que quoi qu'il arrive, moi, j'aime ma copine, tu vois. Et je pense qu'il y a ça qu'elle avait peut-être pas entendu, qu'elle avait peut-être pas compris. Et du coup, je pense que de rage, elle écrit à ma copine, lui disant, ouais, ça a été affreux.
C'est intéressant. Enfin, c'est rare d'avoir ce pan-là, en fait, du trio. Parce que souvent, t'as la femme trompée qui va, ou l'homme trompé, hein, on va pas genrer, mais qui va s'exprimer. Parfois, la maîtresse ou l'amant qui a décidé d'en faire part, on va dire, j'aime pas le mot, mais au cocufier. Mais c'est rare d'entendre celui qui est l'acteur de tout ça, qui s'exprime. Donc effectivement, toi, tu te retrouves dans la position où ta maîtresse écrit à ta copine, à ta compagne, ouais, pour lui dire que vous avez eu une relation extra-conjugale.
Ouais.
Et là, ta compagne réagit, j'imagine, mal.
Très mal. Et c'est terrible pour elle parce que du coup, moi, je sais que c'est une personne qui est très très insécurisée et moi, j'avais lutté pour lui apporter la sécurité, tu vois. Et je la vois s'effondrer en fait. Je la vois vraiment, vraiment effondrée. Je la vois vraiment déchirée. Je la vois vraiment abîmée, quoi. Et
elle n'avait jamais eu de doute du tout, du tout.
Bah en fait, le problème, c'est que chez elle, c'est qu'elle avait vraiment ce côté un peu prophétie autoréalisatrice. Parce qu'elle était tellement insécurisée que chaque fois que je regardais une fille dans la rue, elle s'imaginait des trucs. Tu vois, moi, une fois, j'étais déjà avec elle au restaurant. Et moi, je suis un mec chouette, tu vois, j'aime bien rigoler, j'aime bien rire avec les gens, discuter. Et donc, la serveuse, qui était plutôt sympa, mais enfin, franchement, j'avais pas tilté une seule seconde, quoi. Alors, je dis un truc minime, et je vois ma copine, mais devenir folle de rage, supposant que j'étais en train de séduire.
Avec.
Ouais.
Ah ouais.
Tu vois le côté un peu interprétatif, mais loin, quoi. Elle a interprété un truc super loin, quoi. Et du coup, ouais, ça a été terrible pour elle. Terrible. Donc du coup, elle disait prophétie autoréalisatrice parce qu'elle imaginait toujours le pire. Et là aussi, il y a une très grande solitude dans ma relation avec elle. C'est que je donnais beaucoup d'amour et elle était tellement sur la défensive qu'elle n'arrivait pas à se laisser traverser par cet amour, tu vois. Mmh. Et au final, moi, je me suis senti très seul, vraiment très, très seul, parce que quand tu essayes de donner de l'amour à quelqu'un et qu'elle imagine toujours le pire, et ben, je pense qu'il y a eu un moment où j'ai eu envie de dire, ok, tu penses toujours que je vais te tromper avec une nana.
Oui,
ben,
tant
voilà,
qu'à faire. Ouais,
j'y vais, quoi. J'y vais, ouais. Ouais.
Oui, c'est vrai qu'en plus...
Rien que de t'en parler, ça m'énerve.
Donc votre fin d'histoire se termine de façon assez atroce, j'imagine?
Alors non, en fait, non, paradoxalement,
oui.
C'était au bout de la... Ouais, c'est bizarre, mais au bout de la...
vous passez cette épreuve ensemble?
Ouais, c'est au bout de la troisième année, je pense.
Ah, ok.
Tout ça s'est passé au niveau de la troisième année, à peu près, de notre couple. Et on a essayé de se reconstruire tous les deux, et je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts tous les deux. Et on a vécu encore ensemble pendant 2 ans.
Et sexuellement, vous aviez réussi à trouver un terrain d'entente?
Eh ben, elle a fait beaucoup d'efforts et alors à la fois j'en suis reconnaissant et à la fois je pense que dans le corps et le rapport sexuel, il n'y a pas d'effort à faire, tu vois.
Bien sûr.
Il faut s'autoriser, il faut se lâcher, il faut se sentir bien, il faut, je trouve que c'est pas le bon terme, mais tu vois, il y a un moment où tu te sens bien et tu t'autorises à prendre du plaisir. Et elle a fait des efforts. Mais j'ai pas senti qu'elle a vraiment pris du plaisir. j'ai senti qu'elle a essayé de me faire plaisir.
Oui, il y avait une forme de contrainte par rapport à tes attentes et pas forcément à son propre plaisir.
Ouais.
J'imagine, après, je ne sais pas si vous en parliez ou si vous aviez ce niveau et ce degré d'intimité, et peut-être que tu n'as pas envie d'en parler, mais est-ce qu'elle te parlait de ces moments de masturbation ou existait-il déjà ? Est-ce qu'elle avait un imaginaire autour de l'érotisme, du fantasme, etc. Est-ce que c'était une jeune femme qui avait quand même un attrait pour la sexualité ?
Ben, j'essaie de lui en parler, mais vraiment très light. C'est-à-dire que le soir, j'essaie de lui raconter des histoires, pas du tout sexuelles, mais juste des histoires qui nous faisaient parler un peu de notre imaginaire, tu vois. Mais vraiment une histoire presque, tu vois, d'enfant. L'idée, c'était vraiment de travailler notre imaginaire ensemble. Et je sentais que c'était trop compliqué pour elle, en tout cas qu'elle ne s'autorisait pas à partager son imaginaire, son univers à elle.
Oui, il y avait un problème de lâcher prise quand même assez évident, quoi.
Ouais, clairement.
Okay.
Du coup, parler de sexualité avec elle, c'était encore plus compliqué.
J'imagine.
Donc non, j'ai répondu à ta question, non, on n'a pas réussi à se rencontrer sur le plan sexuel, en tout cas.
D'accord. Donc vous avez encore 2 ans comme ça, avec effectivement des efforts et une sexualité qui va un peu mieux qu'au début. Tu rencontreras d'autres femmes en parallèle à ce moment-là ?
Non, alors du coup, là, non, je reste avec
T'es
elle.
T'es vacciné ?
je suis vacciné. En même temps, moi, je suis toujours attiré par les autres femmes, mais voilà, je tiens à ma copine, je sais à quel point c'est compliqué, je reste sérieux, entre guillemets. Et on essaye de se reconstruire tous les deux. Et puis, on essaye de trouver une place, c'est-à-dire que de se créer un univers social. C'est-à-dire que moi, toute ma famille et toute ma communauté m'a tourné le dos parce que je suis en couple de façon affichée avec une femme qui n'est pas juive et qui... en fait, je crée un couple qui ne sera pas un couple juif orthodoxe. Et du coup, toutes mes anciennes connaissances et ma famille ne veulent plus rien savoir de moi.
Donc, wow, c'est dur, hein.
Ouais, ça c'est dur parce que du coup on est très seul. Il y a ce côté où la famille s'éloigne, il y a ce côté où elle, ma compagne, est tellement possessive que elle éloigne mes copains et du coup on se retrouve tous les deux. Donc on est très seul. Et donc moi je me dis bon, on va essayer de créer des relations de confiance, des relations qui vont la rassurer et en même temps qui vont nous faire du bien. Mmh. Et en même temps, moi j'ai quand même mon identité juive qui est importante pour moi. Et du coup, j'essaie de rencontrer des communautés qui sont plus light, tu vois, qui sont à la fois des communautés juives, mais qui sont beaucoup plus cool, beaucoup plus détendues, beaucoup plus mixtes, beaucoup plus modernes. Mmh. Et sauf que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ma compagne a du mal avec ces personnes. Elle a beaucoup de mal avec le groupe aussi. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui s'essouffle, en fait. Il y a cette solitude qui devient trop pesante et ça fonctionne pas. Et tu vois, c'est intéressant parce que le symptôme de ce mal-être-là, c'est que moi, du coup, je prends le train tous les jours pour aller taffer. Et il y a une jolie fille qui m'intéresse dans le train et je vais la draguer. Tu vois, il y a un moment où, je sais pas, la SNCF a fait une grève, on est bloqué dans le train ou je sais pas trop quoi. Voilà, on est bloqué dans le train et puis je vais la draguer. Il se passe rien, mais je vais le dire à ma copine. Je vais lui dire, écoute, tu vois, j'ai été attiré par une autre fille. Je suis plus en sous-marin, là. Là, je te dis les choses en face. Ça va pas. C'est le signe que ça va pas entre nous. Viens, on essaie de faire quelque chose.
Okay.
Et puis, ça a été un effort pour moi parce que c'était une première pour moi. Tu vois, de m'autoriser à dire les choses et à lui dire, bah là, ça va pas. Plutôt que juste de draguer cette fille, de coucher avec et puis je dis rien, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, on va voir un thérapeute de couple. Mais ma copine, elle fait quand même la sourde oreille, c'est-à-dire qu'elle dit très clairement en thérapie, quoi qu'il arrive, s'il se passe quoi que ce soit avec une fille, je veux plus rien savoir de toi. Ça, je peux le comprendre, ouais. Tu vois, ça, je peux tout à fait l'entendre. Mais je pense que ça a vraiment fait rupture parce que elle a senti qu'il y avait un problème dans notre couple. Et je pense que ça, elle m'a dit. Même si ça n'a pas forcément été vraiment dit, mais elle a dit, c'est trop compliqué pour moi, j'arrête. C'est trop insécurisant pour moi, j'arrête. Alors, elle n'a pas dit comme ça, mais ça s'est compris dans la thérapie de couple.
t'as senti qu'elle était plus combative, en tout cas, dans votre histoire. Et ça, ça a dû te, j'imagine, te retirer l'envie de, enfin, toi, de ton côté, de donner toute ton énergie là-dedans.
Ouais, ouais. Okay. Ouais, ouais. Et puis moi aussi, je suis quelqu'un de, c'est-à-dire, j'ai pas envie de rejeter la faute tout sur elle. C'est-à-dire que moi aussi, je pense quelque part, mon vécu, mes histoires familiales compliquées ont fait que moi aussi, je suis quelqu'un d'insécurisé, et moi aussi, je me défends dans le lien. Je pense que autant elle est très insécurisée et très possessive, autant moi, j'étais quelqu'un qui, dès qu'il sentait que ça se passait bien dans le couple, j'avais besoin peut-être de déconstruire, j'avais besoin d'un peu de me sentir libre. Du coup, je pense qu'elle a senti ça en moi et ça n'a pas fonctionné, quoi.
Tu penses qu'on peut conjuguer couple et liberté?
Je pense qu'il faut qu'on bien se connaître dans un couple. Il faut qu'on sache, à mon avis en tout cas, faut savoir un peu c'est quoi nos problématiques, c'est quoi nos failles, et puis se dire bah c'est pas grave, on fera avec. Et puis là, si on s'autorise à faire avec, je pense que il y a un goût de liberté, ouais, il y a un goût de liberté qui opère.
Ok. Donc vous terminez votre histoire?
Ouais, ça c'était l'année dernière.
C'est ce que j'allais dire, ça nous amène à peu près à maintenant à tes 35 ans, Samuel.
C'est ça, ouais, c'était l'année dernière. Et depuis, c'est dur quand même, hein, tu vois, c'était une relation forte.
puis le confinement, hein, donc ça aide pas.
Alors je t'avoue que j'ai beaucoup papillonné avant le confinement et même un peu pendant, je dois dire, excusez-moi.
Ouh.
Ouais, ça je sais que c'est pas bien, mais non, en fait c'est pas ça, c'est que pendant le confinement j'étais en couple, j'avais rencontré une fille sur Tinder et on s'entendait bien sexuellement et on se voyait de temps en temps pendant le confinement et on était les deux seules personnes qu'on...
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire? On était les deux seules personnes qui se voyaient pendant le confinement. D'accord. Quoi. J'ai vu elle et ma boulangère pendant le confinement. Et... Voilà quoi.
Ça aurait pu être ta boulangère, ça aurait été tellement plus pratique. Ok, ouais. Donc depuis cette rupture, tu as un peu papillonné,
ouais.
Parce que tu en as besoin, parce que ça te fait du bien, parce que tu as envie de rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu arrives un peu à définir le périmètre de ces flirts?
Alors au début, c'était clairement de la découverte. La découverte du plaisir, de rencontrer aussi, tu vois, plein de gens, ça m'a fait beaucoup de bien, moi, de rencontrer plusieurs femmes avec des tempéraments différents, avec des attraits sexuels différents. Du coup, ouais, moi, ça, le côté un peu papillonnage à 35 ans plutôt qu'à 18 ans, alors c'est un peu tard 35 ans pour le faire, on peut dire ça. Non? Ok, bah, tant mieux.
C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, t'as l'air d'un jeune homme et on.
Bah voilà, bah du coup, ça m'a fait du bien. Mais voilà, après un an de découverte et de rencontres multiples, je me rends compte que vraiment, moi, autant, tu vois, toutes ces rencontres m'ont apporté toujours beaucoup de choses. J'ai beaucoup apprécié rencontrer toutes ces conquêtes, toutes ces femmes qui m'ont appris beaucoup de choses sur moi, beaucoup de choses sur la vie. C'était vraiment un plaisir de, tu vois, de rentrer un peu dans un autre monde, dans un autre univers à chaque fois. Mm-hmm. Autant maintenant, avec un an de papillonnage, si on peut dire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un et de m'épouser. Et à 35 ans, il y a aussi la question de la paternité, de la famille. Ça, ce sont des questions qui commencent à me préoccuper, ouais.
Et dans les questions justement de construction et de transmission, est-ce que tu te vois avec une femme juive ou ça n'a pas d'importance pour toi?
Alors, ça a été une question compliquée hein, pendant longtemps. Et ça,
j'imagine.
Ça, ouais, ouais. Et puis ça crée aussi beaucoup de tensions au sein de mon couple avec ma compagne juive, parce que c'était aussi ça un peu l'enjeu. Avec du recul, je me suis rendu compte que moi, juif ou pas juif, c'est pas tellement ça le problème. Au contraire, moi, je suis quelqu'un qui est appelé par la diversité, par des profils avec des histoires très, très différentes. En revanche, je souhaite effectivement transmettre quelque chose de juif à mes enfants. Donc, je pense que le facteur pour moi, l'indicateur important, c'est de pouvoir me sentir entouré par une communauté juive, alors une communauté juive qui sera moderne, égalitaire, homme-femme, etc., tu vois, et qui sera tolérante envers mon épouse, que ce soit juive ou non juive. Tu vois ce que je veux dire? Je conçois qu'on puisse faire les fêtes juives, qu'on puisse transmettre quelque chose de mon identité juive, et que ça soit dans un groupe social. Après, juif, pas juif, je m'en fous un peu.
D'accord. Ce serait plus simple quand même pour ta mère que ça, qu'elle soit juive.
Exactement. Clairement, ouais. Ça, il faut le dire.
Ok. Et justement, d'un point de vue... donc, effectivement, tu as ces questions-là à 35 ans qui sont très légitimes. Et sur la sexualité, est-ce qu'il y a des terrains avant que, effectivement... Enfin, avant, ça peut être aussi en même temps, hein, mais avec ta future compagne et épouse. Mais est-ce qu'il y a des terrains de jeu sexuel vers lesquels tu as envie d'aller et de t'essayer? Parce que jusqu'à maintenant, à part si, effectivement, j'ai raté quelque chose, mais ta sexualité reste, comme on l'appelle ici, sur le canapé rose du podcast, une sexualité vanille. Est-ce que y a des pratiques, des choses que tu aimerais essayer?
Waouh, ça c'est une question un peu délicate, mais moi
j'ai... Ah non, mais si c'est trop délicat,
Non, pas du tout, c'est que je prends un peu le temps pour la digérer, mais t'inquiète pas,
C'est vrai, moi je me rends plus compte, mais j'ai un vrai sujet de non-frein.
Non, mais tant mieux. Déjà, je me suis rendu compte qu'en me lâchant un peu, je suis un peu rock'n'roll, c'est-à-dire que, tu vois, des petites claques sur les fesses, que ça soit sur moi ou sur ma partenaire, des choses un peu, tu vois, olé olé, j'aime bien ça. Donc, je pense que...
C'est là où on voit que t'as 35 ans, hein. T'as dit rock'n'roll et olé olé dans la même phrase.
Merde, ça y est, je suis démasqué, punaise. Mais oui, je pense que j'ai une attirance pour, déjà, moi, je suis toujours un peu vigilant. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'il y ait une connexion. J'ai besoin de sentir que c'est partagé. Et je sens que j'ai une attirance aussi pour le côté un peu pas violent. C'est pas un beau terme, violent. Mais un peu le sexe, un peu dans la douleur. J'ai jamais essayé en fait. Hein. Tu vois, j'ai toujours une sexualité vanille. J'ai jamais utilisé des accessoires, des menottes, des fouets, des trucs comme ça. Jamais.
Ce que tu décris, c'est du soft BDSM.
Voilà, c'est ça. Je pense que si je m'autorisais un peu plus, je pense que j'irais vers un peu plus du soft BDSM, bien sûr avec le partage et l'accord de ma compagne, quoi.
Bien sûr. Et on parle de femmes depuis le départ et les garçons?
Non. Mais je pense que je suis. Le corps des hommes ne m'attire pas. Je suis attiré par les femmes. Je trouve ça magnifique, le corps des femmes. Il y a quelque chose de vraiment très électrique, très électrisant dans le corps des femmes. Mm-hmm. Mais par contre, moi, ce qui me questionne, et je sens que là aussi, avec un peu d'années encore à venir, c'est plus le côté rapport pénétrant-pénétré. Et, mm-hmm. Et moi, je me suis souvent dit, mais ok, donc je couche avec une femme. Moi, ça me fait beaucoup de bien, et en même temps, je me rends compte que j'essaye aussi de faire beaucoup de bien à l'autre, mais je sais pas trop ce que ressent l'autre, en fait. Je sais pas ce que ressent une femme lorsqu'elle est pénétrée. Et tu vois, la question de la différence des plaisirs, la différence des ressentis. Et moi, ça m'a questionné beaucoup, ça. Et du coup,
C'est bien parce que c'est déjà un chemin que tu fais toi-même dans la déconstruction du pénétrant, pénétré, dominé, dominant, qui est hyper intéressant. Et puis après, effectivement, tu fais le parallèle avec la relation, la pénétration anale de la relation homosexuelle, mais elle peut être très, tout à fait déconstruite dans un rapport hétéro entre un homme et une femme, tu vois. Mais c'est vrai que c'est des choses qui prennent un peu de temps déjà à intellectualiser, à digérer, puis à mettre en place, et puis à apprécier ou non, parce qu'évidemment, il y a des hommes et des femmes qui n'apprécient pas, et c'est OK aussi, tu vois. Mais c'est intéressant déjà que tu aies ce cheminement-là.
Ouais. Et c'est ça, en fait, parce que moi, je me suis vu dans un rapport sexuel faire mon gros gaillard, le gros dominant, tu vois, qui pénètre, qui chevauche tout à le temps, comme ça. Et je me suis dit, mais je joue à quoi, là? Tu vois, si c'était moi qui étais pénétré, comment je vivrais le truc? Est-ce que je prendrais du plaisir ou pas? Et tu vois, comme
c'est intéressant hein, de déconstruire l'hétéronormativité dans ce qu'elle a de plus effectivement primaire, qui est l'homme dominant qui pénètre et la femme qui reçoit en soumission. C'est intéressant.
Ouais. Alors pourtant, j'ai pas fait le pas de d'inverser les rôles, tu vois.
Bah après, ça dépend si ta compagne, et même si, encore une fois, loin de moi l'idée de donner tu vois, des directives, mais c'est vrai que c'est plus simple de mettre ça en place avec une compagne que tu connais depuis un certain temps et avec qui tu as déjà une sexualité qui roule qu'avec des jeunes femmes, toutes aussi super soient-elles, mais que tu rencontres sur Tinder et avec qui tu as tu vois, quelques relations intimes. Ouais. C'est quand même, ça demande quand même un petit peu d'appréhension et de préparation, etc. Tu vois.
Ouais.
Donc ça, c'est un peu tes envies à venir. Est-ce que si demain, enfin j'imagine que tu as un garçon curieux et ouvert, mais si demain ta compagne te propose un plan à trois ou d'autres petits exotismes de la sexualité vanille, c'est des fantasmes et des choses que tu peux inscrire toi dans ta sexualité?
Alors moi, encore une fois, j'ai besoin d'être rassuré dans le côté où l'autre prend du plaisir. Et j'ai du mal à imaginer, par exemple, qu'une copine ou une amie me dise j'ai envie de prendre du plaisir avec toi, et une fille, je réfléchis en parlant, tu vois, hein, mais je me dis, moi dans ma tête, j'arriverai pas à croire que deux filles soient attirées par moi ou soient attirées par le côté triolisme, je sais pas, j'arriverai pas à être pleinement dans ce truc à trois. Maintenant, est-ce que c'est un fantasme pour moi? Non, franchement, non. C'est pas mon délire. Que ça soit deux femmes ou deux hommes, c'est pas non.
Ok. Est-ce que tu pourrais toi définir qu'est-ce que un bon coup?
Déjà, parce que j'ai rencontré une femme récemment. On s'est vu plusieurs fois. Et je trouve que ça se passe plutôt bien ensemble. Et c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé avant. Il y a une sorte d'attirance physique extrêmement forte de mon côté. Alors, je peux pas trop le dire, ça a l'air, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, moi, de mon côté, j'ai jamais été autant attiré par une fille. Mais à tel point que j'adore son odeur. Je pourrais la lécher partout.
C'est une chimie, quoi.
Ouais, il y a quelque chose qui l'opère, tu vois.
Mmh.
C'est très fort. C'est, encore une fois, ça m'était jamais arrivé.
C'est une fille que tu as rencontrée sur Tinder?
Non, c'est une fille déjà que j'ai rencontrée sur Bumble. Mais Bumble, je trouve que c'est plus chouette, Bumble, parce qu'il y a le côté moins consommateur
D'accord.
Que sur Tinder. Je sais pas si tu connais cette application. C'est une application où ce sont les femmes qui mènent un peu le jeu, tu vois. Elles sont pas harcelées par 15 000 mecs qui leur disent hey, ça va, tu veux que je te montre ma quéquette? Tu vois le truc?
Personne ne dit quéquette.
Pardon, désolé.
C'est magique. Ok, non, pardon. Et donc, ouais, donc sur Bumble, et donc du coup, ça a tout de suite matché entre vous.
Ouais, ça a tout de suite matché entre nous, et sexuellement, ça fonctionne bien, quoi. Et sexuellement, on prend du plaisir ensemble. Alors, je sais pas jusqu'au bout, tu vois, je pense que dans le rapport sexuel, il y a toujours un moment où l'autre, il essaie de faire plaisir. Ou bien on essaye un peu d'enjoliver les choses, mais c'est pas grave. Je pense qu'en tout cas globalement, ouais, on s'entend bien, on s'entend très bien. Je saurais pas te dire qu'est-ce qui fait que c'est un bon coup, mais en tout cas, je sens que ça se passe suffisamment bien pour que je sois pas dans le contrôle, ou en tout cas pas trop dans le contrôle, quoi.
Ok. Est-ce que t'as un type de femme?
Ouais, je dois dire que ouais. Même moi,
c'est honnête et c'est cool de le dire.
Ouais, moi je m'en veux un peu à chaque fois, même si c'est pas infaillible, mais je sais que j'aime les filles claires, les filles rousses avec des taches de rousseur. Ouais, j'ai un truc sur les filles soit blondes, soit rousses avec des taches de rousseur.
Ok.
Et c'est fou parce que c'est à dire que moi j'ai mes amis qui vont trouver une fille pas du tout jolie, puis moi je suis complètement, tu vois, je vais la trouver complètement, je vais la trouver magnifique, quoi.
Bah, heureusement, c'est bien, comme ça, il y en a pour tout le monde.
Exactement. Exactement.
C'est ça qui est beau. Ouais. C'est ça qui est chouette. Qu'est-ce que tu pourrais te souhaiter pour la suite? Pour ta sexualité future?
De rencontrer une personne avec qui, déjà, je vais pouvoir avoir une relation au long cours quand même, parce que je pense que c'est important. Et une personne avec qui, là aussi, hein, c'est un peu cucu, vanille, mais oui, avec qui je vais me sentir suffisamment à l'aise pour explorer avec elle, tu vois. Mm-hmm. Pour qu'on explore ensemble, en fait.
Bah, c'est cool. Ce sera quoi le mot de la fin, Samuel ?
Dans les religions, de manière générale, il y a souvent cette dichotomie entre le bien et le mal. Et moi, j'ai appris, avec ma petite expérience et mon petit cheminement, que le plus important, c'est d'écouter sa petite voix intérieure, et que au final, il n'y a pas de bien ni de mal. La petite voix intérieure, elle te pousse toujours vers des choses positives. Il ne faut pas croire qu'on est pris comme ça, à la fois par des penchants négatifs et des penchants positifs. Je pense que tant qu'il y a du questionnement, il y a de la réflexion, on s'autorise à avoir du doute et on s'autorise à entendre ses doutes, ça peut être que positif. Donc voilà, essayez d'écouter sa petite voix jusqu'au bout et tout ira bien.
Super, je te remercie infiniment en tout cas.
Merci à toi.
Merci pour votre écoute, merci infiniment à Samuel pour son honnêteté, sa transparence et sa patience. Cet épisode a été compliqué à enregistrer parce qu'il y avait plein de problèmes de connexion de mon côté. Et voilà, Samuel a été super cool, ça a duré 2h30 je crois. Donc le montage a été long, très long, mais ça nous fera des bons souvenirs. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité, merci de partager ce podcast, merci de l'aider à grandir et de le soutenir. N'hésitez pas à venir me parler de cet épisode en DM sur Instagram ou sur Facebook ou même par mail, j'en reçois beaucoup et c'est toujours un grand grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année 2020, on est le 31 décembre et au moment où vous écouterez cet épisode. 2020 a été une année très compliquée pour beaucoup de monde, donc on ne va pas revenir dessus. Essayons de nous projeter en 2021, même si dès le 1er janvier 2021, ça ne sera pas oublié et tout derrière nous. Néanmoins, on avance vers des choses positives. Je vous souhaite surtout la santé. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et dites-le leur. Je vous souhaite de réaliser vos rêves, de vivre de vos passions, d'avoir des projets, d'être entouré de vos proches et de vos amis. Et surtout, le plus important, écoutez-vous. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On the Verge.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.